Présenter mon ami Maître Lovem est en effet un devoir très agréable. Tel que vous le voyez à ma gauche, Maître Lovem est une présence, dru, solide, calé, un être où la matière généreuse a fourni à l'esprit les sillons d'un profond et fertile ensemencement. 52 ans de cheminement terrestre, bourgeon d'une souche terrienne, étudiant son canton du Valais en suivant de poste en poste un père sergent de gendarmerie, élève du collège de Sion, puis d'Einsiedeln en Allemagne, au cœur de la Suisse primitive, puis encore à Saint-Maurice en Valais. À Fribourg, alma mater des catholiques suisses, ce sont les études de droit et la licence. Jusqu'en 1977, pendant 20 ans, il exercera le métier d'avocat, prenant le temps d'élever avec Simone, son épouse, une belle famille de 6 enfants, dont certains ont déjà fait de lui un grand-père. Roger Lovem est attiré par la fonction publique. Il interrompra 5 ans son activité d'avocat pour seconder en qualité de greffier le tribunal cantonal. Puis, dès 1977, il est élu procureur du Bas-Valais. Il excelle dans cette tâche délicate, qualifiant avec justesse, sans acrimonie mais sans faiblesse, les actes délictueux dont il a à connaître. C'est la carrière officielle. Mais les limites strictes de l'occupation professionnelle ne peuvent enserrer l'énergie d'un bon citoyen. Dès 1969, Maître Lovem, entre autres, devient éditorialiste d'un hebdomadaire politique conservateur, La Patrie Valaisanne, devenu pour les besoins apparents de l'aggiornamento valet de main. Ça veut dire, depuis 12 ans, une fois par semaine, l'explicitation régulière dans notre canton de la doctrine chrétienne de la société, le rejet tranquille, constant, motivé de toutes les séductions modernistes, l'affirmation inlassable des vérités que nous tenons de nos parents chrétiens, de bons maîtres et des bons prêtres que nous avons eus. Si je dis ici naturellement « nous », c'est que, valaisan comme Maître Lovem, je me place dans la mouvance de ce grand frère. Et parce que, d'autre part, nous avons une origine commune, étant les deux combourgeois de la même commune d'Orcières, aux forêts et aux pâturages desquels nos ancêtres ont demandé des siècles durant leur humble subsistance. Maître Lovem y appartient à la famille la plus populeuse, la famille des Lovem, qui s'est donné pour armoirie, à la suite d'une étymologie patronymique discutable et approximative, un taureau. L'image m'enchante, et sans vouloir offenser le conférencier, je dirais qu'il y a du taureau chez Roger Lovem. Le lion rugit trop fort, et ses coups de gueule sont trop violents. Les qualités de notre orateur ont avec le taureau quelque analogie. Le courage qui ne se préoccupe pas du succès pour entreprendre. La force qui est ici conviction. La détermination qui est la tranquillité des certitudes et la persévérance qui est sans doute ce qui manque le plus au roi des animaux. Et pour cesser vraiment d'être sérieux, ils ont l'un et l'autre en commun leur allergie au rouge. Nos amis français venant ici voudront bien comprendre que notre discours politique suisse s'est par nécessité historique développé sur un substrat démocratique et qu'il ne nous a pas toujours été facile de les comprendre dans les procès qu'ils ont faits à ce régime sans y apporter toujours les distinctions nécessaires. Il me faut ici remercier très chaleureusement et personnellement Jean Madiran, conférencier d'hier, pour le précieux livre qu'il a consacré à cette question, livre intitulé « Les deux démocraties ». dont je me permets de recommander chaleureusement la lecture, car j'espère qu'à vous comme à moi, il apportera sur le sujet des lumières définitives. Jean Madiran nous enseigne en fait que le dernier clivage politique de notre temps est celui qui sépare ceux qui acceptent une loi naturelle qui nous précède et nous oblige et ceux qui entendent se faire leur loi selon des recettes plus ou moins contraignantes mais toujours apparentées. Ramu, dont le père Gérard a parlé à l'homélie de ce matin, le grand écrivain de Romandie, qui n'est pas que poète, le disait aussi, il y a de cela 50 ans environ, dans les années 30, et il est assez curieux de voir ce vaudois protestant nous rejoindre ici totalement. Je cite Ramu, et ensuite je donnerai la parole que j'ai trop longtemps gardée à Maître Lovet. Jamais cet homme-là, dit-il, parlant du bolchevique, n'est à genoux ni ne peut l'être. Cet homme-là ignore avant tout la prière. Voilà peut-être le fond de la question. Car il y a des hommes qui prient et des hommes qui ne prient pas. Et voilà peut-être le grand départagement des hommes. On veut dire prier de toutes les façons, car il y a mille façons de prier. Car toute espèce de prière est une tentative pour entrer en communion avec quelque chose ou quelqu'un qui existe en dehors de nous-mêmes et à qui on accorde une existence objective, à qui on accorde même une existence qui dépasse infiniment la nôtre en importance et en puissance, dont non seulement on reconnaît l'existence, mais qu'on vénère précisément en ce qu'il nous dépasse, qu'on aime donc, tandis que l'athéisme n'aime que soi, et n'est en communication qu'avec soi, à part quoi il n'aime rien, et il n'est en communication avec rien. Mesdames et messieurs, si l'on voulait résumer l'œuvre de Maître Lovet en Valais, l'œuvre civique 100 ans, je dirais qu'elle est un combat pour le maintien de la pensée valaisanne dans l'obédience au seul roi que les Suisses connaissent, et finalement, y a-t-il autre chose à faire, puisque tout le reste nous sera donné par surcroît. Pour parler de la Suisse et de son turbulent passé, pour faire écho ici à ce qu'elle a pu faire de mieux, Roger Lovet est sans doute celui qu'il fallait inviter à monter ses gradins. La parole est à lui.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, laissez-moi en préambule remercier l'amitié pour les paroles qui viennent d'être prononcées. Il y a entre nous, dois-je dire, une complicité qui date de notre enfance, et c'est sans doute cette complicité amie qui lui a fait tenir des propos qui dépassaient quelque peu la réalité. Quand j'ai accepté de présenter à la demande des organisateurs de ce congrès le sujet Histoire et état de la démocratie en Suisse, j'avais bien le sentiment qu'il s'agissait d'une chose immense. J'en ai eu un sentiment encore beaucoup plus aigu quand il a fallu me mettre à rédiger. Et qu'il fallait de toute façon concilier tout ce qu'on pouvait dire avec le laps de temps dans lequel je devais me tenir. Le choix que j'ai fait est donc en un certain sens arbitraire. J'admets d'ores et déjà qu'on puisse le contester. Il y a mille façons, peut-on dire, d'aborder un problème. Je vous propose celle que j'ai choisie, ne prétendant vous contraindre cependant à rien, sinon à considérer avec moi quelle fut, au travers des siècles, notre constante, quel est notre état aujourd'hui et quelles conclusions devons-nous en tirer pour notre vie privée et pour notre société. L'histoire politique de la Suisse, je dis bien l'histoire politique, non pas l'histoire tout court, car il faudrait remonter à bien des centaines d'années avant. L'histoire politique de la Suisse commence avec le pacte conclu au début du mois d'août 1291 par ce que l'on appelle chez nous les Waldstätten et qui se traduit en français par les pays forestiers ou par les communautés vivant au sein de la forêt. Et dans le pacte, ce sont les hommes de la vallée du Rhin, la communauté de Schwyz, et celle des hommes de la vallée inférieure d'Unterwald. Une vision romantique et accommodante, au sens où l'on peut dire que le cristallin accommode les images sur la rétine, a dépeint nos pères fondateurs comme des paysans incultes vivant à l'écart de la civilisation, pareils aux bergers de l'hypothétique âge d'or, n'ayant d'autres vertus qu'une liberté abstraite et d'autres forces que leurs vertus primitives. Cette imagerie, nous la devons au XVIIIe siècle, puisque nous voyons fleurir dès ce moment-là diverses pièces qui sont autant d'hymnes, si l'on peut dire, à un héros qui n'est pas le nôtre et qui s'appelle Guillaume Tell, qui est celui de la légende. Nous voyons en effet des auteurs, Sedaine et Grétry, par exemple, monter au théâtre italien à Paris un Guillaume Tell, où l'on entend, parmi d'autres inventions désarmantes, le vieil Arnold de Mertal qui chante la chanson de Roland, et où la pièce se termine par les embrassades des sans-culottes et des révolutionnaires suisses, puisqu'on les présente ainsi. Et avant la révolution de 1830, une année exactement avant, le Guillaume Tell de Rossini est présenté à Paris. On a pu dire de cette pièce que l'arbalète de notre héros légendaire, devenu, signe des temps d'ailleurs, le label de qualité de nos produits, était visiblement pointée sur Charles X. Comme le remarque Georges Méotti, les Suisses jouèrent ainsi dans une certaine partie de l'opinion publique française, au XIXe siècle particulièrement, le rôle que jouèrent les Chinois au XVIIIe, de même que ceux-ci étaient censés représenter la tolérance et les Lumières, de même les premiers Suisses devinrent les héros de la démocratie libérale. Quelle n'eût pas été leur stupéfaction, si on avait pu leur dire. C'est le lieu de remarquer ici d'ailleurs que le mot démocratie lui-même n'apparaîtra dans le langage courant qu'à la fin du XVIIIe siècle et qu'il n'existait avant cette époque que dans le langage savant. Le premier à l'avoir employé et défini est Nicolas Orem, évêque de Lisieux, que ne devons-nous pas à nos amis français, qui vécut de 1330 à 1382 et qui définissait la démocratie comme l'espèce de policie en laquelle la multitude des populaires a domination. Encore faut-il savoir que le terme de « policie », qui a donné dans un premier temps « police » au sens de gouvernement, qui aujourd'hui a une autre signification, et cela n'est pas sans traduire une réalité, le terme donc de « policie » désignait au Moyen-Âge le régime où la multitude avait le pouvoir, mais encore faut-il préciser que « multitude » s'entendait à ce moment-là non comme le grand nombre, comme la masse, mais comme le peuple organisé, lui aussi politiquement, c'est-à-dire en ses corps de métier. Revenons donc au pacte de 1291 pour comprendre et ses raisons d'être et l'esprit de ceux qui le conclurent. Les Van Stetten constituaient une très petite partie du Saint-Empire romain germanique qui avait été fondé en 962 par Otton Ier le Grand. Il est à propos de remarquer que l'Empire, c'était une idée chrétienne, une idée de l'Église. Durant les siècles du premier Moyen-Âge, et même durant tout le Moyen-Âge, et même jusqu'à la Réforme, l'idée d'Empire était une exigence de l'intelligence chrétienne, toute nourrie à la fois de théologie et de classique latin. L'Empire, c'était une mission. À une époque où il fallait défendre la civilisation et la foi contre le paganisme et l'islamisme, en même temps qu'il fallait une autorité supérieure et forte pour mettre fin à l'anarchie, l'Empire était l'exigence temporelle, la conséquence politique du credo. Nous en trouvons d'ailleurs comme une espèce de première réalisation dans Clovis et son royaume, qui en 506 n'occupait encore que le nord de la Loire et qui, 20 ans plus tard, s'étendra jusqu'aux Pyrénées. Très tôt, ce frein retourne vers ses origines, comme le dit Gonzague de Reynold, que j'aurai l'occasion de citer quelquefois. Ces Germains n'ont pas oublié la Germanie, ils n'ont d'ailleurs jamais rompu complètement avec elle. Il y a même encore des Francs qui ne l'ont point quitté, ceux de Franconie. Et le premier objectif de Clovis est d'établir son hégémonie, sinon sur la Germanie tout entière, du moins sur la rive droite du Rhin, jusqu'à la mer du Nord et jusqu'au centre, et jusqu'au centre, cela veut dire à peu près jusqu'aux Colognes d'aujourd'hui. Clovis entra donc en guerre contre les Alamans, les Vainquis et les Soumis, mais dès sa mort, en 511, son royaume partagé va se désagréger. La deuxième réalisation, celle-là beaucoup plus grande, beaucoup plus intense, c'est celle de Charlemagne, franc lui-même d'Austrasie. Le franc, le germain Charlemagne, en recevant la couronne impériale, avait reçu, peut-on dire, du pape une mission qui était de sauver la chrétienté en refaisant l'Empire. Cette mission, l'Empire romain, cette mission le transforma. Il y appliqua tout son génie, toute sa foi. Il oublia qu'il était franc pour se souvenir qu'il était universel et il se conduisit désormais en empereur romain. Ce n'était pas un titre nouveau d'ailleurs, ni à plus forte raison usurpé. L'Empire avait en fait cessé d'exister. Constantin l'avait transporté de Rome à Byzance, mais l'ordre légal et légitime venait là-bas d'être interrompu puisque une femme portait la couronne impériale. Charlemagne était donc l'empereur légal et légitime, au moins pour l'Occident, que nous a défini hier Jean Madiran. Cette chrétienté que l'empereur a pour mission de propager, de défendre, est menacée au nord, à l'est, par le paganisme, au sud, par l'islamisme. S'il ne put reprendre l'Ibérie à l'islam, il la contint derrière les Pyrénées et même la déborda jusqu'à Barcelone. Il vainquit les Saxons, les convertit au catholicisme, il civilisa ainsi toute la Germanie, et l'on peut dire de Charlemagne qu'il a, à ce moment-là, cimenté l'Europe occidentale. Cette œuvre prodigieuse, telle qu'il l'avait accomplie, ne lui survivra pas en raison de la conception encore toute germanique de la souveraineté, selon laquelle la couronne n'est pas un héritage indivisible, que l'on se transmet de père en fils par ordre de primogéniture, mais un domaine qu'à la mort du père se partagent les héritiers. La crise d'ailleurs qui va suivre, qui est celle des 9e et 10e siècles, est la suite de ce démembrement. Une crise intérieure, c'est la guerre un peu de tous contre tous, c'est l'absence d'autorité, c'est l'absence d'armée, c'est l'absence de limites stables, c'est l'absence de position durable, et conséquemment à cette crise d'autorité, et nous sommes placés un peu pour le savoir, se produit une corruption des mœurs et une dégénérescence intellectuelle, peut-on dire, qui effrayait les contemporains. Crise intérieure, mais menace extérieure aussi, menace de la part des Sarrasins qui avaient pris Rome en 846 et qui, en 930, partis de Provence et remontant les Alpes, installent un camp au Grand Saint-Bernard, d'où leur bande rayonne jusque dans la région de Saint-Gall et du lac de Constance. Menace de la part des Normands, qui ravagent les côtes de France et d'Allemagne, s'installent dans la province, qui portera d'ailleurs désormais leur nom, et viennent jusqu'à assiéger Paris. Et menace enfin de la part de l'Asie avec les Hongrois païens, qui à partir de 899 parcourent, en pillant, en détruisant, la Haute-Italie, les Alpes, l'Allemagne du Sud, et pénètrent même jusqu'au cœur de la France. Cette crise et ses périls imposaient la nécessité de reconstruire l'Empire, mais sur qui se reposer? Les Capétiens n'apparaîtront qu'en 987, et ce fut donc vers Othon de Saxe, Othon le Grand, que l'on se tourna pour reconstruire à l'est du Rhin l'œuvre de Charlemagne, et ceci en trois étapes, roi de Germanie à Aix-la-Chapelle, roi d'Italie à Pavie, et empereur, enfin à Rome, le 2 février 962. Et son épouse, qui est-elle? C'est Adélaïde, Sainte Adélaïde, fille de Rodolphe II, roi de Bourgogne, Transjurane, et de la reine Berthe. Sainte Adélaïde, d'ailleurs, fut l'âme du Saint-Empire. Elle en avait réalisé le sens et compris la mission. C'est elle qui introduisit Cluny en Germanie et par Cluny l'influence française. Elle survécut à son mari, heureusement peut-on dire, et put guider son fils, l'empereur Othon II, et à la mort de ces derniers, ce fut le mystique Othon III, qui succéda à l'Empire sous la régence de Sainte Adélaïde encore. Conseillé par sa grand-mère, il se mit lui-même à l'école de Gerbert, archevêque de Reims, et le pria de venir extirper en lui, ce sont ses propres termes, toute la brutalité de sa nature saxonne. Gerbert, c'est, dans peu d'années, le pape Sylvestre II, et le jeune Othon, pour demeurer auprès de lui, décide de se fixer à Rome sur l'Aventin, et au titre d'Imperator Augustus Romanorum, il ajoutera celui d'humble serviteur des apôtres. L'idéal d'Othon III, celui d'Adélaïde, était une confédération de tous les princes chrétiens, au milieu desquels il n'eût été que le primus inter pares. Il mourra à 22 ans, et son cousin Henri II lui succédera en 1002. Couronné empereur en 1014, il travailla de concert avec le pape Benoît VIII pour la réforme de l'Église en Occident, et l'on a pu dire que jamais empereur et pape ne se sont si bien entendus, jamais non plus empereur ne comprit mieux l'Église. Malheureusement, et le pape et l'empereur mourront tous deux en 1024, et Henri II sera canonisé en 1146 avec son épouse Cunégonde, et avec lui disparaît la grande dynastie saxonne. Pendant ce demi-siècle que dura cette dynastie, l'invasion hongroise fut arrêtée, les Hongrois eux-mêmes se convertirent au catholicisme avec leur roi Vaïk, qui sera Saint-Étienne, les Polonais, puis les Tchèques se convertissent également, et par l'effet de cette dynastie en 50 ans, au lieu d'être menacés à l'Est, l'Occident s'y est avancé. Ils se sont désormais couverts par de grands royaumes catholiques et l'Église, sans être encore soumise à une réforme fondamentale, avait été restaurée, la papauté relevée, la civilisation occidentale prenait cette courbe ascendante dont le sommet sera le XIIIe siècle, le siècle des Saint-Louis, des Saint-Thomas d'Aquin et des cathédrales. Après les Ottonides, saxons, succéda la dynastie franconienne, avec trois Henri, Henri III, Henri IV et Henri V, le Henri IV de Canossa. Henri V mourant en 1268, puis nous aurons Frédéric Barberousse, Frédéric II, puis le grand interrègne, qui durera 20 ans jusqu'en 1273, et auquel mettra fin Rodolphe de Habsbourg. Ce bref rappel historique pourrait sembler inopportun ou hors sujet, il ne l'est pas, car il montre en fait le cadre dans lequel s'est pour une part préparé le pacte de 1291, dont on a pu dire que plus qu'un commencement, il était un aboutissement. Ce cadre, c'est donc celui du Saint-Empire. Aux yeux de la chrétienté d'alors, l'empereur est l'avoyer de l'Église, et l'avoyer désigné, c'était une image, dans certains cantons suisses, le titre de premier magistrat. Comme tel, il doit maintenir les peuples dans l'obéissance chrétienne, exécuter les décrets du Saint-Siège, propager la foi parmi les infidèles. Il reçoit du pape le glaive, le globe, la couronne et l'anneau, symbole de la foi. Il porte les titres de chef de la chrétienté, de chef temporel des fidèles, de défenseur et d'avocat de l'Église chrétienne, de protecteur de la Palestine et de la foi catholique. Dans le Saint-Empire, il est le supérieur des rois. Aucun pouvoir n'est légitime sans lui. Il peut affranchir les cités et les peuples, les placer sous son obédience directe, et c'est ce que nous appelons l'immédiateté. Cette doctrine des deux pouvoirs universels n'a correspondu, il est vrai, ne pouvait correspondre d'ailleurs en fait que par intermittence à la réalité. Il fallait pour cela que l'empereur et le pape soient d'accord. Cela n'arriva guère que sous le règne de Charlemagne, d'Othon III, des premiers Henri. Néanmoins, cette idée était implantée dans les esprits comme la seule conception à la fois divine et logique de la société. Elle parlait au cœur comme un idéal vers quoi il ne fallait cesser d'aspirer. Et cette conception était précisément celle des Wallstätten, convertis depuis longtemps et qui vivaient dans leur communauté avant le pacte de 1291, faut-il le préciser. Qui étaient ces Wallstätten? Je l'ai dit, de petites communautés dans le Saint-Empire. Elles n'étaient d'ailleurs pas uniques en leur genre, et des Alpes au Jutland, des Frises à la Bohême, d'autres communautés existaient semblables à elles. Pour comprendre le Moyen-Âge et le contexte du pacte de 1291, il nous faut donc chasser de nos esprits les idées de nation, d'État, de politique qui sont ultérieures, qui surgiront plus tard. À ce moment-là, au XIIIe siècle, la carte du Saint-Empire donne l'impression, comme le déclare Gonzague de Reynolds, d'un kaléidoscope. C'est le manque le plus complet, non seulement d'unité, mais surtout d'ordre politique. C'est un enchevêtrement de souverainetés féodales, petites ou grandes, ecclésiastiques ou laïques, de villes libres, de communautés, de droits, de servitudes, d'intérêts, de conflits, tels qu'on s'y perd en essayant de s'y débrouiller. Et ce qu'était le Saint-Empire, à la même époque, mais d'une façon moindre, bien moindre peut-être, la France, l'Angleterre, l'Espagne l'étaient, elles l'étaient de façon moindre, parce que dans ces pays se formaient des dynasties héréditaire des rois auxquels la nation peu à peu allait, autour desquels la nation peu à peu allait se cristalliser. La note propre donc du Moyen-Âge, une note propre du Moyen-Âge, c'est son particularisme, mais il ne faut pas perdre de vue que c'est là une moitié de la réalité. L'autre moitié, c'est l'unité religieuse. Le contraire, pourrait-on dire, en définitive, de notre époque, où nous connaissons l'unité politique, les États jusqu'au totalitarisme, mais où coexistent les philosophies les plus disparates et les systèmes de pensée les plus antagonistes. Pour le Moyen-Âge, au contraire, diversité extrême au niveau des modes de vie, mais union, communion totale de pensée au niveau des questions essentielles. Les Wallstätten formaient donc des communautés tranquilles, vivant à l'écart sans cependant être isolées. Un événement va les mettre en lumière, et c'est la création du Saint-Gothard, de la route du Saint-Gothard, par la construction d'un pont audacieux, qui a donné lieu d'ailleurs à la légende du pont du diable, au-dessus des gorges abruptes de la Reuss, au-dessus du passage des Schellenen. De ce jour, une liaison nord-sud était ouverte, qui mettait en communication directe la plaine du Pô et toute l'Italie avec les Allemagnes et avec les pays traversés par le Rhin. C'était aux environs de l'an 1190, une circulation intense emprunta cette nouvelle artère qui prenait une importance européenne, importance économique par la facilité qu'elle offrait aux marchands, importance religieuse car elle permettait le passage et le flot des pèlerins venus de Germanie et même de Scandinavie vers Rome, importance politique enfin car elle créait une liaison directe entre les deux parties du Saint-Empire, la Germanie et l'Italie. Et les Wallstätten se trouvaient être les gardiens au nord de ce passage si important. Dernier point encore à évoquer. À partir de 1075, en effet, le Saint-Empire est divisé par la querelle des investitures. Les papes revendiquaient le droit exclusif d'investir les évêques de leur charge, tandis que les empereurs entendaient se réserver ce droit, puisque les évêques étaient en même temps qu'évêques des seigneurs féodaux. Et tout le monde, en mémoire Canossa, d'Henri IV, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui marque un épisode de cette lutte, et l'on peut dire que le royaume de Germanie fut précipité dans une anarchie dont les grands dynastes profitèrent au détriment de l'autorité royale. Si Frédéric Barberousse, Frédéric Ier, put ramener la paix durant un demi-siècle et restaurer son pouvoir, à partir de 1190, qui est la date de sa mort, les mêmes dynastes que Frédéric Ier avait contenus se remirent à l'œuvre pour se tailler de nouveaux territoires dans l'Empire. Et la maison des Habsbourg, en particulier, avait des visées sur les Wallstätten et à travers eux, sur le Saint-Gothard. C'est cette raison qui amena Frédéric II, cette position géographique des Wallstätten et leurs caractéristiques, qui amena Frédéric II à placer Uri sous l'immédiateté impériale, déjà en 1231, par une charte du 26 mai. Et 9 ans plus tard, Schwitz obtint de Frédéric II aussi une lettre rédigée en décembre 1240 par laquelle l'empereur prenait cette communauté sous sa protection spéciale. Et c'est à cette date que se situe une première alliance des Wallstätten. Le pacte de 1291 s'y réfère expressément quand il dit qu'il veut renouveler l'acte de l'ancienne alliance corroboré par un serment. En 1250, Frédéric meurt. 4 ans plus tard, je l'ai souligné, s'ouvre le grand interrègne, le terrible temps sans empereur, comme on disait dans les Allemagnes et comme on le disait plus qu'ailleurs dans les Wallstätten. Il va durer 20 ans. C'est en 1273 seulement que Rodolphe est nommé roi de Germanie. On eut au fait de reconnaître en lui l'homme nécessaire, l'empereur qu'on attendait. De fait, il tint bientôt en ses mains tous les pouvoirs impériaux. Il mit fin au grand interrègne et en octobre 1975 rencontrait ici même à Lausanne le souverain pontife Grégoire X venu consacrer la cathédrale de Lausanne. Il le rencontra donc à Lausanne pour conclure un accord qui terminait l'inexpiable querelle entre les deux pouvoirs. Rodolphe va essayer de mater la féodalité sans négliger sa propre maison. Il y avait toujours dans l'empereur du Saint-Empire romain germanique 2 hommes, si l'on peut dire, qui cohabitaient, et l'empereur et le chef de la maison qu'il représentait, puisque l'empereur était nommé par les 7 grands électeurs. Il confirma les franchises du riz, reconnut l'immédiateté des Schwyzois, leur donna même une bannière qui est l'origine du drapeau suisse et leur accorda le privilège de ne jamais être jugés par un nom libre. Que faut-il entendre par là? La société médiévale était divisée en deux grandes classes, les libres et les non-libres, et parmi les non-libres ou de la liberté à la non-liberté, il pouvait y avoir toutes sortes de stades intermédiaires. Les Wallstätten étaient constitués essentiellement de paysans libres et d'une élite représentée par la petite noblesse. Pour savoir ce qu'était un paysan libre, il faut se rendre compte qu'un fils de paysan libre pouvait épouser la fille d'un noble sans qu'il y eût mésalliance, alors que s'il épousait la fille d'un paysan non libre, il perdait sa liberté pour lui-même et pour ses descendants. En théorie, un paysan libre pouvait être candidat à l'Empire, puisque les deux seules conditions étaient d'être libre et d'être baptisé. Enfin, grâce à l'immédiateté impériale, les paysans libres avaient le droit de souveraineté sur leur propre territoire, ce qui les faisait d'ailleurs hiérarchiquement passer avant les petits nobles et les chevaliers dans les diètes impériales. Voilà pourquoi ils se disaient fièrement « aller Fürsten genos », égaux de tous les princes, ce qui n'était pas l'expression démagogique d'un sentiment d'égalité, mais l'expression aristocratique d'un état juridique, d'une situation sociale. Quelle est maintenant la cause prochaine du pacte de 1291? C'est la mort, le 15 juillet de la même année, à Spire, de Rodolphe Ier. La malice des temps dont parle notre texte, c'est la disparition de l'empereur, et avec cette disparition, l'inconnu lourd d'incertitude qu'elle engendre. C'est la menace sur leur liberté, leurs biens, leurs personnes. Et cette menace s'incarne d'ailleurs plus spécialement pour eux en cette maison des Habsbourg qui, je l'ai dit, a des visées sur eux. Ils se sentent isolés, livrés à eux-mêmes, et ils décident dans ce contexte-là de renouveler l'alliance qu'ils avaient conclue quelques 50 ans auparavant et de s'engager par serment. Cette alliance est plus qu'un traité. Elle est plus même qu'une alliance. Et si elle l'est davantage, c'est à cause du serment. Un traité n'avait ou ne pouvait avoir qu'une valeur conventionnelle, une alliance pouvait n'être que temporaire, une confédération devait durer, comme le dit le pacte lui-même, s'il plaît à Dieu, perpétuellement. Supra, le pacte est rédigé en latin, supra scriptis statutis, pro communi utilitate salubriter ordinatis, concedente domino, in perpetuum duraturis. Dans le mot de confédération, il y a le mot de feudus, le serment. Et il faut, dit Régine Pernoud, entendre serment au sens étymologique de sacramentum, de choses sacrées. On jure sur les évangiles, accomplissant ainsi un acte sacré qui engrange non seulement l'honneur, mais la foi, la personne entière. La valeur du serment est alors telle, et le parjure si monstrueux, que l'on n'hésite pas à s'en tenir à la parole donnée dans des cas extrêmement graves, par exemple pour faire la preuve des dernières volontés d'un mourant sur la foi d'un ou deux témoins. Renier son serment représente, dans la mentalité médiévale, la pire déchéance. Cet engagement par serment, c'est le lien féodal qui unissait inférieur à supérieur, protégé à protecteur, mais qui pouvait aussi unir des égaux. Chacun, dans ce cas, jurait à la fois protection et fidélité à chacun. C'était la vieille devise des corporations, c'est encore la devise de la Suisse, un pour tous, tous pour un. À l'époque de la chrétienté, tout pacte, à commencer par le nôtre, était conservateur. Dérivé de la théologie, le droit médiéval s'affirmait immuable. L'esprit de nouveauté n'avait aucune prise sur les esprits, il y avait même un crime de nouvelleté. Nul n'ignorait que le respect des droits acquis était la seule garantie des droits nouveaux. Dieu est mon droit. Cette devise féodale résume l'esprit de ces temps. Dieu premier servi, dira plus tard Jeanne d'Arc. Mais le droit devait être second servi. Dans une société où chacun, du serf à l'empereur, avait son droit, attaquer le bon droit d'un autre, l'en frustrer, était un acte coupable, même un crime. Défendre son droit, s'il le fallait, les armes à la main, était un acte légitime, même un devoir. Ajouter à son droit ancien un droit nouveau qui ne fut pas une nouvelleté, mais qui fut contenu en puissance dans le droit ancien, était aussi un acte légitime et même à l'occasion un devoir. Et notre pacte dit d'ailleurs, en toutes lettres, que chacun, selon la condition de sa personne, soit tenu comme il sied d'être soumis à son Seigneur et de le servir. On voit par là que l'esprit qui inspire le pacte est celui du respect des droits de chacun, en même temps que la manifestation de s'unir et de s'unir par serment pour défendre ses propres droits. Cet esprit qui transparaît dans le pacte, Gonzague de Reynold l'appelle l'esprit de la Mahnung, un mot intraduisible littéralement en français, mais qui veut dire que lorsqu'un membre se voit menacé, il a le droit d'appeler tous les autres à son secours en leur adressant un avertissement solennel et pressant. Et cet avertissement solennel et pressant, c'est la traduction de la Mahnung. Il suffit qu'un État confédéré déclare sous serment qu'il a besoin des autres pour que tous les autres soient tenus d'accourir à son secours sans avoir à examiner le bien fondé de cet appel, sans être d'ailleurs justifié à le faire. Et cet esprit de la Mahnung, nous le retrouvons, nous pouvons voir en acte, 2 siècles plus tard, au soir de la victoire de Morat sur Charles le Téméraire ou Charles le Hardi, les capitaines de Zurich adressent au conseil de leur ville un rapport, et nous lisons dans ce rapport ces mots: « Selon les ordres que vous nous aviez donnés de nous hâter, car les gens que Berne et Fribourg avaient mis dans Morat souffraient grande et dure détresse, nous avons fait battre les tambours et sonner les trompettes. Puis nous nous sommes mis en chemin pour rejoindre nos confédérés en 10 heures de temps, car il pleuvait et il y avait une mauvaise route tout encaissée. Mais nous avons tenu fidèlement notre parole. Et après avoir pris peut-être 2 heures de repos, bien que toujours il plût très fort, chacun s'est levé, on s'est mis en ordre de bataille et l'on a marché à l'ennemi au nom de Dieu. » Ajoutons d'ailleurs que la guerre contre le duc de Bourgogne fut déclarée par les Suisses au nom de l'Empire. Je me suis attardé sur ce pacte de 1291 qui sera renouvelé, confirmé, amplifié en 1315 au lendemain de la victoire de Morgarten sur les Habsbourg précisément. Et ce sera même ce pacte qui, pour nos pères, davantage que le pacte de 1291, sera tenu pour l'acte fondamental, en tous les cas pour l'acte le plus important. Ce qui ressort donc de l'examen des faits ne ressemble en rien à la légende qui nous dépeint les premiers confédérés comme des révolutionnaires, des faiseurs de ce que l'on pourrait appeler des putsch ou des pronunciamentos. C'étaient des chrétiens de cette chrétienté médiévale qui vivaient à l'unisson d'une même foi. C'étaient des hommes qui, respectant les droits légitimes des autres, entendaient faire respecter les leurs. Connus pour leur fidélité à cette grande idée chrétienne de l'Empire, ils se lient par serment pour assurer en commun leur défense dans ce monde extrêmement troublé et plein d'insécurité qu'est devenu le Saint-Empire au XIIIe siècle. Les deux pactes de 1291 et de 1315 sont l'expression de cet esprit chrétien. Ils consacrent une évolution qui s'est poursuivie depuis la fin du IXe siècle en tout cas. Et c'est ce même esprit qui va présider aux pactes qui vont se conclure à l'occasion des alliances ultérieures, puisque en 1332, c'est Lucerne qui conclut alliance avec les Waldstätten, Zurich en 1351, Zug en 1352. En 1353, c'est Berne, mais Berne ne se lie que par un pacte qu'avec les Waldstätten, non avec les autres alliés des Waldstätten. Et enfin, ce sera Glaris qui entrera définitivement dans la Confédération en 1389, après une première alliance temporaire en 1352. Et nous avons ainsi les 8 cantons qui seront partis au convenant de Stans, dont nous célébrons cette année le 500e anniversaire. Et c'est même à l'occasion de ce convenant de Stans, la première fois que les 8 cantons manifestent une volonté commune et simultanée. Ils le font d'ailleurs après avoir été à la veille de s'entre-déchirer, de se séparer et de se combattre. Ils le font sur l'inspiration de Saint Nicolas de Flux, qui put ainsi empêcher une crise grave qui opposait les cantons-villes et les cantons-campagnes. Et c'est à la même époque, à la même date, que Fribourg et Soleure sont admis dans l'Alliance, sans obtenir toutefois les mêmes droits que les 8 cantons. 3 autres cantons, plus tard, au début du XVIe siècle, Bâle, Chaffouz et Appenzell, viendront encore agrandir l'Alliance avant le premier grand drame où notre pays faillit sombrer et qui est la Réforme. La Confédération des 13 cantons, qui durera inchangée depuis le début du XVIe siècle jusqu'à la Révolution française, 2 siècles et demi tout de même, se divisa en 2 camps qui en vinrent finalement aux armes, et la paix confessionnelle ne sera définitivement établie que par la paix d'Aarau le 11 août 1712, grâce d'ailleurs à l'intervention décisive de la France. Au cours de cette période de 2 siècles et demi, la Suisse se détachera définitivement et totalement de l'Empire après les guerres de Souabe, le traité de Westphalie en 1648. Elle verra au cours du XVIIe siècle s'instaurer dans les villes un régime aristocratique que l'on appelle le patriciat, et dans les cantons campagnards se tiennent les Landsgemeinde, les assemblées du pays où seuls les bourgeois sont admis. Puis surgit la Révolution française. En 1798, l'armée française envahit la Suisse qui, ne trouvant plus sa cohésion, succombe rapidement. La France impose une constitution calquée sur la sienne qui transforme la Confédération des 13 cantons en une république helvétique. Mais lui succédera en 1803 et pour 10 ans l'acte de médiation imposé par Napoléon. Puis ce sera une tentative de restauration patricienne. Puis ce sera encore le Sonderbund ou alliance séparée qui verra s'affronter à nouveau 2 parties de la Confédération. Et après des années troublées, nous aurons les 2 constitutions. De 1848 et de 1874, cette dernière nous régissant encore. Mais cette histoire des 2 derniers siècles est assez connue de la plupart d'entre vous pour que j'évite de m'y attarder. J'ai décrit successivement l'origine de la Suisse des 13 cantons. Mais il faudrait bien ajouter que c'est l'histoire de chaque canton, en fait, qu'il faudrait tracer pour comprendre l'originalité de chacun qui ne s'explique que par son histoire. Mais quelle que soit l'histoire particulière de chacun d'eux, de chacun de ces cantons, ce qui est vrai, c'est qu'à un moment de leur existence, ils sont entrés dans l'Alliance avec l'esprit qui était celui de l'Alliance. Si nous tenons sous un même regard l'ensemble de notre histoire, nous constaterons que ce que l'on appelle l'ancienne Confédération, la vieille Suisse, a duré 5 siècles, et que si on le compare à d'autres institutions, on s'apercevra que c'est la durée de l'Empire romain, d'Auguste à Théodose. La Suisse actuelle, ou la Suisse moderne, n'a qu'un siècle et demi à peine d'existence, et ceci devrait la rendre à une certaine modestie. On parle tout uniment de la démocratie suisse, comme d'une constante qui caractériserait la vie de notre pays de ses débuts à nos jours, comme si l'identité du mot correspondait à une identité de la chose. Ce n'est point. Les faits démontrent que la Suisse s'est construite sur le principe que je viens de vous expliciter et que l'on nomme chez nous, de façon générale, le fédéralisme. De petits États se fédèrent pour conserver leur autonomie, leur personnalité, leurs droits. En le faisant, ils ne concluent pas un simple contrat temporaire, mais s'engage par un serment garanti par la foi et l'honneur. On ne saurait dès lors parler d'une démocratie suisse à propos de l'ancienne confédération, parce qu'il n'existe que des cantons, pleinement souverains, réglant leur vie politique chacun à sa manière, et l'on peut parler non pas d'un régime suisse, mais d'autant de régimes qu'il y a de cantons, l'unité et des décisions communes ne se faisant que principalement pour la défense. Dans cette vieille Suisse, nous avons les cantons montagnards ou campagnards, qui possédaient leurs assemblées de citoyens, les Landsgemeinde, qui sont l'expression la plus immédiate de la démocratie dans la vieille Suisse. Cette assemblée constitue l'autorité suprême de l'État. Elle n'est d'ailleurs possible que dans des cantons avec des limites géographiques relativement étroites et c'est, je crois, André Siffrine qui avait fait cette observation, qu'il fallait, pour que ces assemblées soient viables, que les citoyens qui y participent puissent en quelque sorte embrasser d'un seul regard toute l'étendue du territoire pour lequel il était appelé à prendre des décisions. Mais cette assemblée constitue l'autorité suprême de l'État, parce que la Landsgemeinde était chose importante et digne, elle était entourée de cérémonies, d'une solennité qui s'accordait à sa valeur. Chaque citoyen qui y prenait part, et c'était son devoir d'assister, s'y montrait armé de l'épée de l'homme libre, du soldat. La Landsgemeinde s'ouvrait par une prière, était close par une prière, et par là se trouvait affirmée la conviction que non seulement l'individu dans sa vie privée, mais l'État dans sa vie publique dépend et de l'aide et de la protection de Dieu. Par là se trouvait affirmée aussi la conception de l'ancienne confédération selon laquelle, au-dessus du peuple libre réuni pour exercer ses droits souverains, existe une autorité supérieure, l'autorité de Dieu qui est reconnue immédiatement avant et après l'Assemblée en un acte officiel. L'ancienne démocratie suisse n'est pas fondée sur l'absolue souveraineté du peuple, puisqu'elle reconnaissait précisément, au-dessus de la puissance de l'État, au-dessus de sa propre souveraineté, la puissance et la souveraineté du divin Créateur. Il faut souligner aussi, d'ailleurs, que le nombre des citoyens qui possédaient des droits complets, qui avaient droit de vote et qui avaient part au gouvernement, était limité, même dans les Landsgemeinde. Seules, en effet, les familles enracinées depuis longtemps dans le pays pouvaient y participer et revêtir une charge. Ceux qui n'appartenaient pas à une vieille famille du pays étaient exclus de cette assemblée, et nous pouvons trouver jusqu'à 4 catégories de citoyens dans un pays comme celui de Schwytz de l'époque. Relevons encore la stabilité et la force de l'autorité de l'Aman, qui était désignée pour diriger les destins de la communauté. Élu pour une année, il devait à la fin de son mandat rendre compte de son administration, et les listes d'Aman montrent que la réélection était de règle parce que le peuple choisissait des personnalités fortes. Et dans la plupart des cantons se constituèrent des familles de chefs, et ceci n'était pas jugé incompatible avec la démocratie parce que l'on avait en su de la conscience de ses droits certes, mais d'abord et aussi de ses devoirs, le sens de la valeur de la tradition. Si dans les campagnes se déroulaient annuellement les Landsgemeinden, dans les villes ce furent des conseils qui présidèrent aux destinées de la cité, mais dans le cadre religieux, dans la même conception de la soumission de l'autorité et des lois à Dieu. Et ajoutons que sur ce point, la réforme n'a pas amené une division au sein des confédérés. On ne saurait passer sous silence ce fait capital, c'est que dans l'ancienne confédération, l'accent est mis sur la famille, sur la lignée, sur les corporations. Toute une série de communautés, familles, corporations, communes, abritent l'individu, lui servent de protection et de cadre de vie et d'action. Il ne s'agit certes pas d'idéaliser des situations. À ces époques, comme à tout âge de l'humanité, se sont produits des troubles, des divisions, des conflits d'intérêts, des violences. Les moteurs en sont toujours les mêmes, et quelqu'un le résumait en disant que partout où il y avait des hommes, il y avait de l'hommerie. Mais il est certain qu'il y a encore beaucoup plus d'hommerie dans les cités des hommes quand n'y est pas reconnue publiquement l'autorité de Dieu et de ses commandements. Et l'exemple de cette vérité n'est pas à rechercher d'abord dans le Moyen-Âge. Nous ferions mieux, pour être plus immédiatement éclairés, de regarder dans le nôtre. En passant de la vieille démocratie suisse, au sens que je viens brièvement d'expliquer, à la démocratie actuelle, nous constatons tout d'abord qu'il y a eu une faiblesse dans l'ancienne confédération, c'était l'absence d'un pouvoir central, d'un pouvoir central permanent. Et l'on peut dire, sans forcer les choses, que cette absence a même causé sa faiblesse et peut-être finalement sa perte. Il faut en effet un toit à toute construction. Et de ce point de vue, notre Suisse actuelle, notre régime actuel plutôt, a comblé une lacune. Il reste à juger le nouvel édifice. Notre système actuel présente cette particularité de voir coexister deux sortes d'éléments. Ceux qui nous viennent de notre histoire et ceux qui, à partir de la Révolution française, se sont insérés dans les institutions de tous les pays et bien évidemment du nôtre, puisqu'un proverbe dit chez nous que lorsque la France est enrhumée, la Suisse éternue. Ces deux sortes d'éléments, il faut cependant bien voir qu'ils sont antagonistes et que leur coexistence n'est pacifique que dans l'abstraction. À la longue, elle n'est pas viable. Expliquons-nous. Notre originalité qui nous vient de notre histoire, c'est le fédéralisme que l'on peut définir comme la forme politique dans laquelle plusieurs petits États ou cités, afin de mieux défendre leur existence, établissent un pouvoir central. Le fédéralisme, ce n'est donc ni le régionalisme, ni la décentralisation, parce que les deux, régionalisme et décentralisation, ne sont que des concessions administratives accordées par un pouvoir central préexistant, et c'est ce pouvoir qui confère aux régions une existence légale, et c'est de lui qu'elles dépendent. Et c'est de lui qu'elles dépendent, non seulement quand à leur instauration, mais quant à leur durée et quant à l'importance des décisions qui leur sont remises. Dans le fédéralisme, au contraire, des États souverains créent un pouvoir central. Le pouvoir central est une émanation du pouvoir des cantons. Il leur est postérieur et peut-être modifié en tout temps par un nouvel accord entre les membres, dont l'alliance, cependant, ne saurait être temporaire par définition. Le pouvoir central doit donc ne point trahir sa mission. Il ne doit point se substituer au gouvernement intérieur de chaque État. Mais il doit être dans ce domaine, dans son domaine, qui est à l'extérieur, celui de la défense et des relations avec les autres États, à l'intérieur, celui du respect du pacte fondamental et de l'esprit dans lequel ce pacte a été conclu. Cette constante de notre histoire, nous en trouvons les éléments encore dans notre régime actuel. Chaque canton possède, bien évidemment, son histoire, qui ne se confond pas avec l'histoire des autres cantons. Et chaque canton possède sa constitution, son gouvernement, son parlement, son organisation judiciaire, son droit administratif, ses finances, sa police. L'école primaire et secondaire relève entièrement des cantons, et les universités de Bâle, Berne, Fribourg, Genève et Lausanne sont cantonales. On pourrait prolonger l'énumération et étendre le bilan de tout ce qui nous reste encore de l'ancienne confédération, de l'esprit qui nous vient de cette histoire. Et le bilan ne serait pas mince. Ce serait folie de ne pas le discerner, car on y attacherait alors, ne le discernant pas, on n'y attacherait pas le prix suffisant pour le défendre. Mais ce n'est là, cet aspect hérité, peut-on dire, mais ce n'est là qu'un aspect de la réalité, l'autre aspect, c'est l'incarnation dans le tissu social, dans les institutions, dans la législation, de principes qui sont l'exacte négation et des constantes de notre histoire, et surtout de la conception chrétienne de l'homme et de la société. Négation des constantes de notre histoire. La Confédération, ai-je assez insisté, c'est l'alliance de nos cantons pour la défense commune, pour qu'ils puissent par là demeurer eux-mêmes avec leur organisation, avec leur vie propre, qui est née aussi de leur histoire. Or voici qu'en violation de ce pacte, de plus en plus fortement, insidieusement, bien souvent, le pouvoir central tend à tout uniformiser, les cantons, la législation, les institutions. Et dois-je dire, il n'est à ce sujet que d'étudier le projet de révision complète de la Constitution fédérale pour être d'une certaine façon édifié. C'est le droit chemin vers un État centralisé et unitaire. Le renversement, qui jusqu'alors n'était ni avoué pour cependant être réel, qui n'était pas avoué pour cependant être réel, le renversement qui devient constitutionnel. C'est le pouvoir central, dirait-on, qui accorde au canton, qui laisse, devrais-je dire, les oripeaux de souveraineté dont il n'a pas estimé utile de se parer. Ce n'est pas toujours, d'ailleurs, de la volonté du pouvoir central lui-même, mais je dirais de beaucoup de nos représentants aux chambres, de nos partis politiques, qui, pour se faire valoir, pour justifier leur existence, quand ce n'est pas par souci électoraliste, confèrent à la Confédération, contre le gré même, souvent, de la Confédération, des compétences qui se traduisent par une emprise toujours plus grande de la Confédération dans la vie intérieure des États qui ne devraient point le regarder. C'est une négation donc des constantes de notre histoire, mais une négation aussi de la conception chrétienne de l'homme, de la société. Alors que l'homme naît enraciné dans une famille, dans une terre, alors qu'il naît fils héritier de tout ce qui l'a précédé, de tous ceux qui l'ont précédé. Et Jean Madiran nous a magnifiquement parlé hier de nos qualités, en quelque sorte, de débiteurs perpétuellement insolvables. Alors donc que l'homme ne peut vivre qu'enraciné aussi dans des communautés de tous ordres, voici qu'on s'est mis à ne le voir que comme individu, comme détachable et détaché de son milieu, comme autonome, sans père ni mère, sans Dieu ni maître. J'arrive là dans le domaine traité si magnifiquement hier par Jean Madiran et Kérali, je ne veux pas empiéter, mais du fait que l'on ne veut considérer que l'individu dans l'homme moderne, on arrive par un enchaînement inéluctable, fatal, inarrêtable, à l'unitarisme, au pays centralisé, unitaire, qui est donc totalement contraire à notre esprit. Cette démocratie, ou cette forme de démocratie qui nous est étrangère, à double titre, qui nous est étrangère comme chrétiens, et qui nous est étrangère comme n'appartenant pas à notre histoire, nous la subissons, en avons-nous suffisamment conscience? Comment, aujourd'hui concrètement, éviter ces dangers et faire qu'ils ne se produisent pas? Ce serait un long discours que je ne veux pas entreprendre. Je voudrais néanmoins vous citer ces paroles de Philippe Etter, qui fut conseiller fédéral, c'est-à-dire ministre et ministre de l'Intérieur, pendant 25 ans. C'est encore un souvenir de l'ancien temps que de laisser des hommes politiques si longtemps exercer leur charge. Il ne fut pas le seul, d'ailleurs, puisque Giuseppe Motta eut un mandat aussi long que le sien. Philippe Etter, donc, ministre de l'Intérieur pendant 25 ans, de 1934 à 1959, et plusieurs fois président de la Confédération, publiait l'année même où il fut élu une étude sur la démocratie suisse. Et il disait, « Si la démocratie doit être sauvée et restaurée, sauver c'était bien qu'il y avait un danger, et restaurer c'est bien qu'elle n'était plus ce qu'elle était. Il faudra que tout le poids de la réforme porte non sur une revision de la forme, mais bien sur une transformation de ceux qui incarnent le pouvoir et la puissance. Il faudra que tout le poids porte sur une transformation spirituelle du peuple. Le matérialisme ne peut être vaincu ni dans l'être intérieur, ni au point de vue intellectuel, qu'en rattachant la vie privée et la vie publique au monde surnaturel. Une démocratie saine et viable suppose nécessairement un peuple croyant et religieux. J'ai l'intime conviction, disait-il, que la démocratie ne peut être sauvée que si nous parvenons à le transformer en démocratie chrétienne, ce qui ne veut pas dire, et c'est moi qui le précise, dirigée par la démocratie chrétienne. J'ai l'intime conviction donc que la démocratie ne peut être sauvée que si nous parvenons à le transformer en démocratie chrétienne et à ramener le peuple, dans sa vie privée comme dans la vie publique, à croire à la divinité de Jésus-Christ et à une vie éternelle. La morale et la foi chrétienne constituent les bases spirituelles de notre ordre social et la démocratie, précisément à cause de l'importance du peuple dans une démocratie, est intéressée par-dessus tout au maintien de ces bases, plus même, davantage que toute autre forme de constitution. Que pouvons-nous faire? Comme le disait encore hier Madiran, nous ne sommes ni ministres, ni chefs de gouvernement, bien que nous soyons, paraît-il, le peuple souverain. Nous sentons bien que nous ne pouvons, à nous seuls et par décret, renverser cet ordre des choses. Mais ce qu'il importe, c'est que chacun, à notre place, à la place modeste qui est la nôtre, fassions pour nous-mêmes d'ailleurs d'abord et autour de nous ensuite, dans les situations concrètes où nous sommes placés, que d'abord nous nous rappelions de ce que doit être un régime politique, de ce qu'il ne peut pas être, et que nous nous efforcions, là où nous sommes, d'y apporter les correctifs, les renversements, souvent, qu'il faut y apporter. René Berthaud a parlé tout à l'heure, en s'adressant à nos amis français, de l'étonnement que nous causait quelquefois leur critique de la démocratie. Et Madiran souligne, dans le livre qui a été cité, que l'une des caractéristiques de la démocratie moderne, qu'il appelle moderne, que j'appellerais la démocratie des zombies, de ces êtres inexistants, de ces ectoplasmes qu'on ne rencontre nulle part dans la réalité, il a dit que cette démocratie moderne était de surcroît orgueilleuse, c'est-à-dire qu'elle ne tolérait aucun autre régime qui puisse, paraît-il, correspondre véritablement à la nature de l'homme. Et pourtant, quand chez nous, nous parlons de démocratie, c'est dans la conscience que la meilleure forme de gouvernement pour un pays n'est pas la démocratie en soi, mais celle qui correspond à l'histoire de ce pays, à sa tradition, aux dispositions intérieures de son peuple et à sa mission spéciale dans la vie des peuples. Pour nous, pour notre pays, c'est la démocratie, non la barbare, l'étrangère, l'intruse, celle dans laquelle l'homme s'adore, mais la chrétienne, celle dans laquelle Dieu est à la clé de voûte de l'édifice. Et dans ces situations qui sont les nôtres aujourd'hui, où nous pouvons relever plus d'impuissance quelquefois face aux événements, nous nous retrouvons un peu dans la situation de cette première confédération au moment de sa fondation, avec ce péril qui était de tous côtés, mais plus particulièrement de l'Est. Cela a toujours été pour l'Europe de là, principalement, qu'est venu le danger. Eh bien, à cette heure, à côté de ce que je vous ai dit qu'il fallait faire, que nous fassions les uns avec les autres, je terminerai peut-être par cette prière que Gonzague de Reynold, dans son ouvrage « Grandeur de la Suisse », met dans la bouche, si l'on peut dire, des délégués des 22 cantons, des 23 aujourd'hui, et qui se présente à la crèche pour offrir à Dieu leur hommage. Et il dit, si nous sommes les confédérés, c'est parce que nous avons juré devant votre croix, sur la foi et sur l'honneur, notre alliance afin qu'elle dure, s'il plaît à Dieu, perpétuellement. Vous êtes, Seigneur, le témoin de cette alliance, le sceau de nos pactes, le lien de notre faisceau. Nous vous demandons la paix, non point celle que nous promettent en vain les hommes, mais la vôtre, qui est la paix des cœurs lorsqu'ils acceptent votre volonté. Nous vous demandons la liberté, non pas celle que les lois humaines proclament, mais celle que vous posez devant vous comme une échelle d'or afin de gravir jusqu'à vous. Dissipez la confusion de nos esprits par la clarté de votre esprit, que votre verbe inspire nos discours, votre sagesse nos actes et votre décalogue nos lois. Que nous demeurions comme vous avez voulu que la terre et l'histoire nous fissent, unis dans notre diversité, harmonisés dans nos différences, fraternels dans nos libertés. Laissez à nos cantons leurs couleurs et leurs bannières, à nos cités leurs visages, à nos paysages leur beauté. Sur les sommets de nos montagnes, sur les têtes de nos collines, sur les crêtes de nos forêts, sur les tours de nos cités, sur les clochers de nos églises, sur les toits de nos maisons, répandez votre bénédiction avec la douceur et l'abondance de la neige quand, après la bise noire, elle se met lentement à tomber. Et après qu'elle est tombée longtemps et qu'elle a tout recouvert, voici que l'azur se découvre et le soleil se répand. Répandez ainsi votre lumière sur nos sommets et qu'il nous apprenne à monter chaque jour plus haut vers vous.